comment la société crée un cadre dans lequel les petites filles s'enfermaient justement sur ces questions de beauté, de représentation au monde et un monde en elle-même. Pas trop, ni pas assez. Calme, sage, qui prend pas trop de place. D'explorer ses désirs.
Mais un truc qui nous rattrape, j'ai l'impression. La réalisation d'une essence féminine profonde. Stop the things
you do. Aime du corps, de comment le cacher ou de comment l'embellir. I ain't lying. Ces plages de temps où on n'est plus là pour personne. La fée du logis. Parce que j'aime le travail ménager. Reproductif et domestique. Ah, je préfère le faire moi-même plutôt que de devoir repasser derrière lui.
On encourage l'idiote aguicheuse, la séduction de sous-doué, le regard de poisson noir.
Mégère acariâtre. Comme des monstres. Mais ce sera plus simple si je reste à ma place. Bon, bah, de femme, oui, je vais avoir un boulot, mais pas plus important que celui de mon mari.
La peur d'être rejetée, la peur de vieillir dans une société qui semble ne concevoir les femmes que jeunes.
Avoir constamment le souci des autres, adultes comme enfants. Mon frère était abonné à Science et Vie Junior, moi non. I don't care.
Tremblez, tremblez, chers auditeurs, tremblez, tremblez, chères auditrices, et sentez à la surface de votre chair et dans vos tripes ces vents, ces courants d'air chargés de soufre jaune venus de loin, très loin, et qui se répandent partout, très partout. Ah non. Elles arrivent, non, elles reviennent, they come back, ellas regresar. Ha, 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 ha. La girouette du coq tourne, tourne, en tous sens au rythme d'une sarabande endiablée, rompant les charmes de la raison qui en...
C'est son truc, là.
C'est pas... Qu'est-ce que tu fais?
Bah, y a pas l'effet, là?
L'effet?
Quel effet? L'effet sur ma voix, là.
Un effet, quoi, de...
De avoir une voix modifiée, enfin... Oh non, le...
Non, là, il n'y a rien. Il n'y a rien, c'est un peu ridicule ce que tu fais, pardon.
Ah oui, mais c'était un super effet avec un gros écho bien caverneux, tu vois, qui fait peur. Et puis il y avait le vent.
Non, il n'y a pas
écho là, il y a rien.
On avait l'impression d'être.
Tu veux qu'on fasse ça?
Mais ouais, on avait l'impression d'être trop fin fond d'une forêt.
Ah ouais.
Enfin.
Ah non, ça marchait pas.
Ah, il y avait les mêmes, mais on entendait les mousses, les toiles d'araignée. Franchement, ça faisait flipper. Enfin.
Non, tu veux reprendre?
Mais mon rire devait être ridicule.
Ah ouais, il est. Ah bah, oui. Bah, si tu voulais faire un rire de sorcière, ouais, c'était loupé.
Mais non, je voulais un rire diabolique, tu vois, qui glace le sang.
Un truc comme ça. Ah ben non, c'était loupé. Désolé.
Il y avait un chat.
Ouais. Ouais, t'aurais pu nous dire, on t'aurait aidé. Hein.
Si vous êtes une femme et que vous osez regarder à l'intérieur de vous-même, alors vous êtes une sorcière. Manifeste de Witch, Women's International Terrorist Conspiracy from Hell.
Bonjour à toutes et à tous, et oui, vous êtes bien au Théâtre de la Gamelle, votre émission de théâtre tous les vendredis de 13h à 14h sur le 102.2. Alors aujourd'hui, nous continuons et nous concluons le cycle que nous avons consacré à la journaliste et autrice Mona Chollet. Après Beauté fatale, les nouveaux visages d'une aliénation féminine en 2012 et Chez soi, une odyssée de l'espace domestique en 2015, place à son dernier opus, sorti tout récemment fin 2018, Sorcière, la puissance invaincue des femmes. Alors, les sorcières, à l'heure actuelle, elles ont le vent en poupe. Elles ont un droit, une place de choix dans la culture mainstream au cours de ces dernières années. Ouais, moi j'ai grandi aux côtés de ma sorcière bien-aimée. Tadam, 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 tadam. Et puis il y avait Ursula, de la petite sirène, qui fait des trucs de fou, mais qui fait quand même flipper. Il y avait Samantha, la sorcière, et puis bon, bah Charmed. Pas Buffy, parce que moi, les vampires, ça me fait peur. Donc, j'ai pas connu Willow. Pour moi, Willow, c'est un personnage dans l'histoire sans fin. Et puis, enfin, il y a Hermione de Harry Potter, qui remporte la palme de l'abnégation féministe.
Personnage principal, en fait, d'Harry Potter.
Oui, c'est ça. Évidemment. Bravo, en tout cas. Et donc, Mona Chollet va plutôt, elle, partir des chasses aux sorcières et comment ces dernières, en éliminant des centaines de milliers de femmes, ont façonné le monde qui est le nôtre aujourd'hui. Elle dégage quatre figures féminines, quatre choix de vie qui, à l'époque des chasses, ont coûté la vie de ces femmes et qui, encore aujourd'hui, sont synonymes de rejet, de réprobation et de zones de non-pensée. Il y a celle qui ose être seule, celle qui ose ne pas avoir d'enfant, celle qui ose vieillir et celle qui ose penser et soigner autrement. Je tiens à préciser que bien sûr ce texte est très long et très dense et que nous avons fait des choix, mes choix de lecture. Donc ce sont des choix personnels qui illustrent des pensées qui peuvent parfois paraître radicales, mais que j'assume totalement et que les lectrices ici présentes ne partagent pas forcément ces opinions-là. Je vous souhaite une très belle lecture. Écoute surtout, et une très belle lecture à mes lectrices qui sont là. Je vais vite vous présenter, pardon. Il y a donc Manu, Anne-Sophie, Charlotte, Lindsay et Delphine. Merci à vous toutes.
Merci Charlotte.
Merci.
Une victime des modernes et non des anciens. Il m'a fallu un temps étonnamment long pour mesurer le malentendu que recouvrait la débauche de fantaisie, l'imagerie d'héroïne aux super-pouvoirs associés aux sorcières dans les productions culturelles qui m'entouraient. Pour comprendre que, avant de devenir un stimulant pour l'imagination ou un titre honorifique, le mot « sorcière » avait été la pire des marques d'infamie, l'imputation mensongère qui avait valu la torture et la mort à des dizaines de milliers de femmes. En 2016, le musée Saint-Jean de Bruges a consacré une exposition aux sorcières de Bruegel, le maître flamand ayant été le premier peintre à s'emparer de ce thème. Sur un panneau figuraient les noms des dizaines de femmes de la ville brûlée, comme sorcières sur la place publique.
Beaucoup d'habitants de Bruges portent toujours ces noms de famille et ignoraient, avant de visiter l'exposition, qu'ils ont peut-être une ancêtre accusée de sorcellerie,
commentait le directeur du musée. Il disait cela en souriant, comme si le fait de compter dans son arbre généalogique une innocente massacrée sur la base d'allégations délirantes était une petite anecdote trop sympa à raconter à ses amis. Et l'on s'interroge. De quel autre crime de masse, même ancien, est-il possible de parler ainsi, le sourire aux lèvres ? En anéantissant parfois des familles entières, en faisant régner la terreur, en réprimant sans pitié certains comportements et certaines pratiques désormais considérées comme intolérables, les chasses aux sorcières ont contribué à façonner le monde qui est le nôtre. Si elles n'avaient pas eu lieu, nous vivrions probablement dans des sociétés très différentes. Elles nous en disent beaucoup sur les choix qui ont été faits, sur les voies qui ont été privilégiées et celles qui ont été condamnées. Pourtant, nous nous refusons à les regarder en face. Même quand nous acceptons la réalité de cet épisode de l'histoire, nous trouvons des moyens de le tenir à distance. Ainsi, on fait souvent l'erreur de situer cette période au Moyen-Âge. Le Moyen-Âge dépeint comme une époque reculée et obscurantiste avec laquelle nous n'aurions plus rien à voir. Alors que les grandes chasses aux sorcières se sont déroulées à la Renaissance. Elles ont commencé vers 1400 et pris de l'ampleur surtout à partir de 1560. Des exécutions ont encore eu lieu à la fin du XVIIIe siècle, comme celle d'Anna Goldie, décapitée à Glaris en Suisse en 1782. La sorcière, écrit Guy Betchel, fut une victime des modernes et non des anciens. À vrai dire, c'est précisément parce que les chasses aux sorcières nous parlent de notre monde que nous n'avons d'excellentes raisons de ne pas les regarder en face. S'y risquer, c'est se confronter aux visages les plus désespérants de l'humanité. Elles illustrent d'abord l'entêtement des sociétés à désigner régulièrement un bouc émissaire à leur malheur et à s'enfermer dans une spirale d'irrationalité inaccessible à toute argumentation sensée, jusqu'à ce que l'accumulation des discours de haine et une hostilité devenue obsessionnelle justifie le passage à la violence, perçue comme une légitime défense du corps social. Elles illustrent, pour reprendre les mots de Françoise Daubonne, la capacité humaine à déchaîner un massacre par un raisonnement digne d'un aliéné. La diabolisation des femmes qualifiées de sorcières eut d'ailleurs beaucoup en commun avec l'antisémitisme. On parlait du sabbat ou de la synagogue des sorcières. On les soupçonnait, comme les juifs, de conspirer pour détruire la chrétienté et on les représentait comme eux, avec le nez crochu. Comme souvent, la désignation du bouc émissaire, loin d'être le fait d'une populace grossière, est venue d'en haut, des classes cultivées. La naissance du mythe de la sorcière coïncide à peu près avec celle en 1454 de l'imprimerie, qui a joué un rôle essentiel. Guy Bechtel parle d'une opération médiatique qui utilisa tous les vecteurs d'information de l'époque. Œuvre de deux inquisiteurs, l'Alsacien Henri Insteris ou Heinrich Kramer et le Balois Jacob Spenger, Le marteau des sorcières,
Malleus Maleficarum,
publié en 1487, a pu être comparé à Mein Kampf d'Adolf Hitler. Réédité une quinzaine de fois, il fut diffusé à 30 000 exemplaires dans toute l'Europe durant la Grande Chasse.
Pendant ce temps de feu, dans tous les procès, les juges vont s'en servir. Ils vont poser les questions du Malleus et entendre les réponses du Malleus.
De quoi battre en brèche notre vision un brin idéalisée des premiers usages de l'imprimerie.
Éliminer les têtes féministes qui dépassent.
Certaines accusées étaient à la fois des magiciennes et des guérisseuses. Un mélange déconcertant à nos yeux, mais qui allait de soi, à l'époque. Elles jetaient ou levaient des sorts, fournissaient des filtres et des potions, mais elles soignaient aussi les malades et les blessés, ou aidaient les femmes à accoucher. Elles représentaient le seul recours vers lequel le peuple pouvait se tourner et avaient toujours été des membres respectés de la communauté, jusqu'à ce qu'on assimile leurs activités à des agissements diaboliques. Plus largement, cependant, toute tête féminine qui dépassait pouvait susciter des vocations de chasseurs de sorcières. Répondre à un voisin, parler haut, avoir un fort caractère ou une sexualité un peu trop libre, être une gêneuse d'une quelconque manière, suffisait à vous mettre en danger. Dans une logique familière aux femmes de toutes les époques, chaque comportement et son contraire pouvaient se retourner contre vous. Il était suspect de manquer la messe trop souvent, mais il était suspect aussi de ne jamais la manquer. Suspect de se réunir régulièrement avec des amis, mais aussi de mener une vie trop solitaire. L'épreuve du bain le résume bien. La femme était jetée à l'eau. Si elle coulait, elle était innocente. Si elle flottait, elle était une sorcière et devait donc être exécutée. On retrouve également beaucoup de mécanismes du refus d'aumône, les riches qui dédaignaient la main tendue d'une mendiante et qui ensuite tombaient malades ou souffraient d'une infortune quelconque, s'empressaient de l'accuser de leur avoir jeté un sort, transférant ainsi sur elle un obscur sentiment de culpabilité. Avoir un corps de femme pouvait suffire à faire de vous une suspecte. Après leur arrestation, les accusés étaient dénudés, rasés, et livré à un piqueur qui recherchait minutieusement la marque du diable, à la surface comme à l'intérieur de leur corps, en y enfonçant des aiguilles. N'importe quelle tache, cicatrices ou irrégularités pouvaient faire office de preuve et on comprend que les femmes âgées aient été confondues en masse. Cette marque était censée rester insensible à la douleur. Or, beaucoup de prisonnières étaient si choquées par ce viol de leur pudeur, par ce viol tout court, qu'elles s'évanouissaient à moitié et ne réagissaient donc pas aux piqûres. En Écosse, des piqueurs passaient même dans les villages et les villes en proposant de démasquer les sorcières qui se dissimulaient parmi les habitantes. En 1649, la ville anglaise de Newcastle-upon-Tyne engagea l'un d'eux en lui promettant 20 shillings par condamné. 30 femmes furent amenées à la mairie et déshabillées. La plupart, quelle surprise, furent déclarées coupables. De tout cela, il paraît difficile de ne pas déduire que les chasses aux sorcières ont été une guerre contre les femmes. Et pourtant, son bilan en vie humaine reste très discuté et ne sera probablement jamais établi avec certitude. Dans les années 1970, on évoquait 1 million de victimes, voire bien plus. Aujourd'hui, on parle plutôt de 50 ou 100 000. N'y sont pas incluses celles qui ont été lynchées, ni celles qui se sont suicidées ou qui sont mortes en prison, soit des suites de la torture, soit en raison de leurs conditions de détention sordides. D'autres, sans perdre la vie, ont été bannies ou ont vu leur réputation et celle de leur famille ruinées. Mais toutes les femmes, même celles qui n'ont jamais été accusées, ont subi les effets de la chasse aux sorcières. La mise en scène publique des supplices, puissant instrument de terreur et de discipline collective, leur intimait de se montrer discrètes, dociles, soumises, de ne pas faire de vagues. En outre, elles ont dû acquérir d'une manière ou d'une autre la conviction qu'elles incarnaient le mal. Elles ont dû se persuader de leur culpabilité et de leur noirceur fondamentale. C'en était fini de la sous-culture féminine vivace et solidaire du Moyen-Âge, constate Anne L. Bassrow. Pour elle, la montée de l'individualisme, au sens d'un repli sur soi et d'une focalisation sur ses seuls intérêts, au cours de la période qui suit, doit être, dans le cas des femmes, largement attribuée à la peur. Il y avait de quoi se sentir incité à faire profil bas.
Ay, qué bonito es volar, y a las dos de la mañana, y a las dos de la mañana. Ay, qué bonito es volar, ay, mamá, volar y dejarse caer en los brazos de tu hermana, en los brazos de tu hermana. Y hasta quisiera llorar. Me agarra la bruja, me lleva al cuartel, me vuelve maceta, me da de comer. Me agarra la bruja, me lleva al cerrito, me siente en sus piernas. Bruja, ya te chupaste a mi hijo, ya te chupaste a mi hijo, y ahora sí, maldita bruja, y ahora le vas a chupar, y a tu marido el ombligo, y a tu marido el ombligo, y ahora le vas a chupar.
Une vie à soi.
Pourquoi vous n'êtes pas mariées, les filles ? Voilà pourquoi. Le problème, ce n'est pas les hommes, c'est vous. Le fait est là. Si vous aviez fait ce qu'il fallait pour être mariée, vous auriez déjà l'alliance autour de l'annulaire. Alors voyons les 6 vraies raisons pour lesquelles vous n'êtes pas mariée. Petit 1, vous êtes une salope. Par salope, je veux dire que vous êtes énervée. Sans doute, vous ne pensez pas être en colère. Vous pensez que vous êtes une fille chic ou si vous avez fait de longues années de thérapie, que vous êtes bien structurée. Mais la vérité, c'est combien vous êtes énervée contre votre mère, contre le complexe militaro-industriel, contre Sarah Palin. Et ça fait peur aux hommes. La plupart veulent juste épouser une femme qui est gentille avec eux. Avez-vous vu Kim Kardashian en colère ?
Quand les femmes ont l'audace de prétendre à l'indépendance, une machine de guerre se met en place pour les y faire renoncer par le chantage, l'intimidation ou la menace. Pour la journaliste Suzanne Faludi, tout au long de l'histoire, chaque progrès dans leur émancipation, si timide soit-il, a suscité une contre-offensive. Elle a minutieusement détaillé, dans un livre paru en 1991, les multiples manifestations de ce qu'elle appelle la revanche ou le retour de bâton. La véritable campagne de propagande qui s'est développée tout au long des années 1980 aux États-Unis à travers la presse, la télévision, le cinéma et les ouvrages de psychologie pour contrer les avancées féministes de la décennie précédente.
Petit 2, vous êtes superficielle. Pour choisir un mari, une seule chose compte réellement, qu'il ait du caractère. C'est cela qui doit être au sommet de votre liste de choses recherchées chez un homme. Mais si vous n'êtes pas encore mariée, c'est que ce n'est probablement pas le cas, parce que les hommes de caractère sont, par définition, prêts à s'engager. Petit 3, vous êtes une garce. Si vous couchez encore en dehors d'une relation stable, vous devez arrêter. Pourquoi ? Parce que passé un certain âge, le sexe occasionnel, c'est comme l'héroïne à usage récréatif. Cela ne reste pas récréatif longtemps.
La thèse martelée et déclinée sur tous les supports au cours de cette période tient en deux mensonges. 1. Les féministes ont gagné, elles ont obtenu l'égalité. 2. Maintenant, elles sont malheureuses et seules. La seconde assertion ne vise pas à décrire une situation, mais à faire peur, à lancer un avertissement. Celles qui osent déserter leur place et vouloir vivre pour elles-mêmes, au lieu de rester au service de leur mari et de leurs enfants, travaillent à leur propre malheur. Pour les en dissuader, on vise précisément ce qui, du fait de leur éducation, constitue leur point faible. Leur peur, panique, de se retrouver livrées à elles-mêmes.
Elles redoutent le crépuscule, ce moment pénible où l'obscurité enveloppe la ville et où les lumières s'allument une à une dans les cuisines chaleureuses.
Écrit vicieusement le New York Times dans un article sur les célibataires.
Petit 4, vous êtes une menteuse.
Newsweek clame que les célibataires de plus de 40 ans ont
plus de chances d'être attaqués par un terroriste que de trouver un mari.
Films et magazines se peuplent de mères au foyer resplendissantes et de célibataires exsangues dont le problème est qu'elles
attendent trop de la vie.
La presse française entonne le même refrain, comme en témoignent ces quelques titres du Monde entre 1979 et 1987.
Quand on appelle liberté la solitude.
Femme, libre mais seule.
La France des femmes seules.
Quand je rentre, personne ne m'attend.
Petit 5, vous êtes égoïste. Si vous n'êtes pas mariée, il est probable que vous pensez beaucoup à vous. Vous pensez à vos cuisses, à votre tenue, à vos rides nasolabiales. Vous pensez à votre carrière, ou bien si vous n'en avez pas, vous pensez à votre formation pour devenir professeur de yoga. Une bonne épouse, y compris le modèle bas de gamme, ne passe pas ses journées à penser à elle. Elle a trop de choses à faire, surtout quand elle a des enfants.
Il faut lire la presse féministe de l'époque pour trouver des articles sur le sujet qui ne visent pas à ramener dans le troupeau la brebis égarée.
Petit 6, vous n'êtes pas à la hauteur.
Dans ces journaux,
loin d'être nié,
analyse Erika Flao,
le choix d'une vie solitaire est rendu à sa juste dimension. Celle d'une victoire sur les pressions multiples qui s'exercent sur l'individu dès sa naissance et conditionne une grande partie de ses actes.
Une bagarre contre les archétypes que l'on porte en soi, les conventions, la pression sociale continue et renouvelée.
Antoinette, février 1985. Là, soudain, on entend d'autres témoignages, d'autres points de vue, comme celui-ci, dans la revue d'en face, en juin 1979.
Lente éclosion de désir, réappropriation du corps, du lit, de l'espace et du temps, apprentissage du plaisir pour soi, de la vacuité, de la disponibilité aux autres et au monde.
Parce qu'en fin de compte, le mariage ne consiste pas à obtenir quelque chose, mais à le donner.
Tracy McMillan, autrice et scénariste, HuffPost 2011.
Dirty bit.
Elle doit se faire dans le sens le plus altruiste. Le rôle de la femme dans la vie est de tout donner autour d'elle. Confort, joie, beauté. Tout en gardant le sourire. Sans faire figure de martyr. Sans mauvaise humeur. Sans fatigue apparente. C'est une lourde tâche. Il faut entraîner nos petites filles à ce renoncement perpétuel et heureux. Dès la première année, elles doivent savoir spontanément partager leurs jouets, leurs bonbons et donner ce qu'elles ont autour d'elles, surtout ce à quoi elles tiennent le plus.
La doctoresse Montsarrat, évoquant l'éducation des filles dans l'Encyclopédie de la femme, publiée aux éditions Nathan dans les années 1960.
Je ne serais jamais là où j'en suis aujourd'hui sur le plan littéraire si j'étais hétérosexuelle.
Déclarée en 1997 la romancière britannique Janet Winterson.
Parce que, et ceci m'a déjà valu beaucoup d'ennuis auparavant, mais allons-y pour les ennuis une nouvelle fois, je ne peux pas songer à un seul modèle littéraire féminin qui ait accompli le travail qu'elle désirait tout en menant une vie hétérosexuelle ordinaire et en ayant des enfants. Où est-elle ?
Il y a quelques années, l'écrivaine Natasha Apana avait interviewé sur leur travail, pour une émission de radio, trois consoeurs et deux confrères parisiens. Les hommes, raconte-t-elle, lui avaient donné rendez-vous dans un café à Belleville pour l'un et pour l'autre sur le parvis du Sacré-Cœur. Mais les femmes, elles, l'avaient reçu chez elles.
Pendant que nous parlions de leur livre, de la naissance de ceci, des rituels, de la discipline, l'une d'entre elles a terminé une vaisselle, m'a fait un thé, et l'autre a rangé des jouets qui traînaient dans le salon, tout en surveillant l'heure de la sortie de l'école. Et cette dernière m'avait confié qu'elle se réveillait tous les jours à 5 heures du matin pour pouvoir écrire.
Lorsque discutant avec un écrivain qui a 3 enfants et qui voyage beaucoup, elle lui demande comment il fait. Il lui répond qu'il a beaucoup de chance. Elle commente
« Beaucoup de chance ». C'est, je crois, une façon moderne de dire « J'ai une épouse formidable ».
Et elle fait les comptes.
Flannery O'Connor, Virginia Woolf, Catherine Mansfield, Simone de Beauvoir, pas d'enfants. Toni Morrison, 2 enfants, a publié son premier roman à 39 ans. Penelope Fitzgerald, 3 enfants, a publié son premier roman à 60 ans. Saul Bellow, plusieurs enfants, plusieurs romans. John Updick, plusieurs enfants, plusieurs romans.
Le désir de stérilité.
Dans La femme et le docteur Dreuf, anagramme transparente, l'éminent gynécanaliste, mis en scène par la romancière suédoise Mare Kandre, recommande à sa patiente, pour apaiser les tourments qui épuisent ses faibles capacités intellectuelles, le remède universel de la maternité, connu pour son immense sainteté et son action purificatrice sur le psychisme féminin. Il manque tomber de son fauteuil lorsque la jeune écervelée lui répond qu'elle ne veut pas d'enfant.
« Ma petite demoiselle, toutes les femmes en veulent. Pour certaines raisons, la femme est et reste généralement inconsciente de ses sentiments, de ses désirs et de ses besoins réels. Ces véritables sentiments doivent être interprétés par un analyste de mon calibre pour que la femme ne se laisse pas totalement entraîner, engloutir par ceci pour qu'elle ne rate pas sa voix, cause du désordre et soit à l'origine du chaos le plus total dans le monde civilisé. »
Pour appuyer son propos, il lui met entre les mains un volume poussiéreux de l'œuvre de son mentor, le regretté professeur Popokov. Il lui fait déchiffrer le passage où il est écrit
« Qu'au fond d'elle-même, toutes les femmes désirent des enfants. »
avant de le lui retirer précipitamment des mains parce que l'idée vient de l'effleurer qu'elle a peut-être ses règles. Il lui assène
« Vous n'avez quand même pas l'intention de vous placer au-dessus de la science médicale. L'expertise de la femme a nécessité des siècles de travail de recherche intense dans les morgues et les asiles pour arriver à ce résultat. » D'innombrables expériences ont été effectuées. Les théories ont été testées maintes fois sur des cochons, des crapauds, des vers solitaires et des chèvres. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point ces faits incontestables sont documentés.
Comment ne pas se laisser convaincre, en effet. Dès qu'il s'agit de femmes et de bébés, tout le monde se lâche. C'est la fête du slip de la nature, si j'ose dire. Vous n'avez plus face à vous que des partisans enthousiastes du déterminisme biologique le plus étroit.
Elles ont un utérus, C'est bien la preuve irréfutable qu'elles doivent faire des enfants, n'est-ce pas ?
Le désir de non-enfant constitue ainsi une zone de non-pensée. On vient même expliquer certaines grossesses par un désir inconscient d'enfant. Cela vaut-il aussi pour celles qui ont été violées ? Ou pour celles qui, lorsque l'avortement est illégal, risquent leur vie pour se débarrasser d'un embryon ? Par ailleurs, s'il faut admettre une ambivalence ou un désir inconscient, on ne peut exclure l'hypothèse d'une aspiration passagère à la normalité. Il n'est pas facile de ramer à contre-courant une vie durant. Une jeune femme volontairement sans enfant dit ainsi son impression de passer pour une bête de cirque. Il résulte de ce contexte culturel une absence totale de soutien pour celles qui s'abstiennent. Cette légitimité fragile, voire inexistante, les poussera à se demander, dès que quelque chose ira de travers dans leur vie, si la cause de leur infortune ne tient pas à leur absence de descendance.
Joan Rivers, animatrice du Tonight Show.
Ma fille a été la plus grande joie de ma vie, et je ne peux pas imaginer qu'elle ne soit pas là. Ne regrettez-vous pas de ne pas avoir eu d'enfant ?
Gloria Steinem, féministe américaine.
Eh bien, John, si toutes les femmes avaient des enfants, il n'y aurait personne pour vous dire comment c'est de ne pas en avoir.
Décider de rompre la chaîne des générations peut être une manière de redonner du jeu à sa condition, de rebattre les cartes d'un rapport de force, de desserrer l'étau de la fatalité, d'élargir l'espace de l'ici et du maintenant.
Dans Moi Tituba, sorcière noire de Salem, Marie Scondé écrit
« Ce fut peu après cela que... je m'aperçus que je portais un enfant et que je décidai de le tuer. Dans ma triste existence, à part les baisers volés à Betsey et les secrets échangés avec Elisabeth Paris, les seuls moments de bonheur étaient ceux que je passais avec John Indien. Crotté, grelottant de froid, ivre de fatigue, chaque nuit, mon homme me faisait l'amour. Comme nous dormions dans un réduit contigu à la chambre à coucher de maître et maîtresse Paris, nous devions veiller à n'émettre aucun soupir, aucune plainte qui pouvait révéler la nature de nos activités. Paradoxalement, nos furieux échanges n'en gagnaient que plus de saveur. Pour une esclave, la maternité n'est pas un bonheur. Elle revient à expulser dans un monde de servitude et d'abjection un petit innocent dont il lui sera impossible de changer la destinée. Pendant toute mon enfance, j'avais vu des esclaves assassiner leur nouveau-né en plantant une longue épine dans l'œuf encore gélatineux de leur crâne, en sectionnant avec une lame empoisonnée leur ligament ombilical ou encore en les abandonnant de nuit dans un lieu parcouru par des esprits irrités. Pendant toute mon enfance, j'avais entendu des esclaves échanger les recettes des potions, des lavements, des injections qui stérilise à jamais les matrices et les transforme en tombeaux tapissés de suaire écarlate. À la bardade, dans un environnement dont chaque plante m'était familière, je n'aurais eu aucun mal à me débarrasser d'un fruit encombrant. Mais ici, à Boston, comment faire ? Moins d'une demi-lieue après la sortie de Boston, s'élevaient d'épaisses forêts que je décidai d'explorer. Un après-midi, je parvins à me glisser hors de la maison, laissant Betsey aux prises de son terrifiant syllabaire et Abigail, les doigts occupés à une tapisserie, mais l'esprit visiblement ailleurs, à côté de Maître Paris. Une fois dehors, je m'aperçus à ma surprise qu'il y avait une grâce dans ces climats. Les arbres, longtemps squelettiques et pareils à ce triste fuseau, s'ornaient de bourgeons. Des fleurs parsemaient les prés, verdoyant à l'infini comme une mer tranquille.
La société ne tolère qu'une seule réponse des mères à la question de la maternité. J'adore ça, résume Orna Donas. Or, le regret existe, et comme tous les secrets, quand il n'est pas dit, il suppure, ou il éclate dans les moments de crise ou de conflit.
Si un petit lutin apparaissait et me demandait si je voulais qu'il les fasse disparaître, qu'il fasse en sorte que rien ne soit jamais arrivé, je répondrais oui, sans hésiter.
C'est simplement un fardeau insupportable pour moi.
Je ne voudrais pas qu'il ne soit pas là, mais je voudrais seulement ne pas être mère.
Je suis une excellente mère, aucun doute là-dessus.
Je suis une mère dont les enfants sont importants pour elle. Je les aime, je leur lis des histoires, je recherche les conseils de professionnels. Je fais de mon mieux pour leur donner une bonne éducation et beaucoup de chaleur et d'amour. Je déteste être mère. Je déteste être mère, je déteste être celle qui fixe les limites, qui doit punir. Je hais le manque de liberté et de spontanéité.
Quand je les ai en face de moi, je ne peux pas les regarder en me disant que je les regrette. Cela n'a pas de sens. Mais par contre, je regrette d'avoir été mère. J'ai tout de suite compris que ce n'était pas pour moi. Et pas seulement que ce n'était pas pour moi, que c'était le cauchemar de ma vie.
So peaceful until this guy is coaching, I got hit, there's no mistake, this is it! Till it's over, and then... It's nice and quiet, shh, shh, but soon again, shh, starts another big riot.
Des cimes.
Depuis que j'ai 22 ans, les journalistes me demandent « Avez-vous peur de vieillir ?»
témoigne l'actrice Penélope Cruz. Il faut aussi parler de ce sentiment d'obsolescence programmée, de cette hantise de la péremption qui marque toute l'existence des femmes et qui leur est propre. Dans une certaine mesure, le jeunisme ambiant affecte les femmes et les hommes, et les seconds peuvent eux aussi souffrir des effets de l'âge. Mais le regard de la société sur les unes et sur les autres est très différent. Un homme n'est jamais disqualifié sur le plan amoureux et sexuel du fait de son âge, et lorsqu'il commence à présenter des signes de vieillissement, il ne suscite ni les mêmes regards apitoyés, ni la même répulsion.
Les hommes ne vieillissent pas mieux que les femmes. Ils ont seulement le droit, l'autorisation de vieillir.
La regrettée Carrie Fisher avait retweeté cette réflexion quand, en 2015, des spectateurs du nouvel épisode de la saga Star Wars s'étaient scandalisés de constater que Leia n'était plus la brunette en bikini intergalactique d'il y a 40 ans. Certains réclamaient même d'être remboursés. Dans le film de Blandine Lenoir, Aurore, sorti en 2016, Agnès Jaoui interprète une femme de 50 ans, mère de deux filles, qui a longtemps assuré la comptabilité de la petite entreprise de son époux. Il ne reste aucune trace de ses années d'activité, aucune cotisation retraite en particulier, puisque son mari, qui par la suite l'a quittée pour aller fonder une autre famille, n'a jamais jugé utile de lui faire des fiches de paie. Quand elle claque la porte du restaurant où elle était serveuse, elle se retrouve dans une solitude et une précarité totale. La séparation devient alors ce moment de vérité où apparaît au grand jour le déséquilibre qui régnait au sein du couple et où le gagnant part en raflant la mise.
Le diktat délirant de l'éternelle jeunesse, une de ces nombreuses quadratures du cercle qu'elles sont censées résoudre, condamne les femmes à vivre dans de faux semblants et la honte d'elles-mêmes. L'américaine Anne Creamer a publié en 2007 un livre sur l'acceptation de ses cheveux blancs. Le déclic lui est venu à 49 ans, en voyant une photo d'elle où elle posait entre sa fille blonde et une amie aux cheveux blancs, alors qu'elle-même teignait les siens depuis des années sans se poser de questions. Elle a eu un choc.
Je me suis fait l'effet d'un trou noir entre Kate, habillée gaiement, et mon ami Aki, saisis sur le point d'éclater de rire. Mon casque d'acajou sombre et profond et mes vêtements foncés aspiraient toute la lumière de ma présence. Voir cette personne, cette version de moi-même, m'a fait l'effet d'un coup de poing dans le ventre. En une seconde, toutes mes années d'artifices soigneux, dans le but de préserver ce que je croyais être une apparence jeune, ont volé en éclats. Tout ce qui restait, c'était une femme d'âge moyen, à l'air confus et négligé, avec des cheveux teints dans une couleur bien trop foncée. Kate avait l'air réel. À qui avait l'air réel? Moi, j'avais l'air de faire semblant d'être quelqu'un que je n'étais pas.
Dans son livre, Fontanelle énumère les raisons pour lesquelles elle trouve beau le blanc de ses cheveux.
Blanc comme tant de choses belles et blanches. Les murs peints à la chaux en Grèce, le marbre de Carrare, le sable des bains de mer, la nacre des coquillages, la craie sur le tableau, un bain au lait, le radieux d'un baiser, la pente enneigée, la tête de Cary Grant recevant un Oscar d'honneur, ma mère m'amenant à la neige, l'hiver.
J'exhibais ma carte senior sous les yeux goguenards des porcs qui partirent d'un rire obscène vers ma silhouette de sirène. Je suis vieille et je vous encule avec mon look de libellule. Je suis vieille sans voix ni loi. Si je meurs, ce sera de joie.
Prendre de l'âge, c'est-à-dire perdre sa fécondité, sa séduction, du moins selon les critères dominants, et son rôle de pourvoyeuse de soins pour un mari ou des enfants. Prendre de l'âge, c'est être une insoumise, même malgré soi. C'est réveiller la peur que suscite toujours une femme lorsqu'elle
n'existe pas uniquement pour créer d'autres êtres et prendre soin d'eux, mais aussi pour se créer elle-même et prendre soin d'elle-même.
Comme l'écrit Cynthia Rich, le corps féminin vieillissant agit comme un rappel du fait que les femmes ont un soi qui n'existe pas que pour les autres.
Dans Les culottés, Pénélope Bagieux parle de Thérèse Claire et de l'utopiste réaliste. Thérèse a 60 ans.
Thérèse s'occupe de sa mère en fin de vie, grabataire, alors qu'elle-même est grand-mère célibataire et qu'elle ne roule vraiment pas sur l'or.
Elle en bave sérieusement. Elle se promet que ses enfants à elle n'auront pas à s'infliger ça.
Elle se met alors à rêver d'un endroit idéal où les vieilles dames, après s'être occupées de leur mari et de leurs enfants toute leur vie, auraient le droit à la tranquillité, à l'autonomie, au bien-être et à la dignité.
Un lieu de vie qui s'affranchirait du regard réducteur que la société porte sur elle.
Au choix, A, un fardeau, ou B, une manne financière à qui vendre des croisières.
Alors que Thérèse considère qu'elle vit désormais
le plus bel âge de la vie, ne serait-ce que sexuellement. Enfin, la passion sans la dictature de la performance.
Personne ne veut financer une maison pour vieille dame, notamment parce qu'elle serait, justement, réservée exclusivement aux femmes.
Mais ce sont elles qui en ont le plus besoin. Les femmes âgées sont statistiquement plus isolées et plus pauvres que les hommes.
40% de revenus en moins.
Oui, mais les ravages de la canicule en 2003 mettent un bon coup de pression aux élus. Ils finissent donc par mettre la main à la poche.
Le terrain est attribué par la ville de Montreuil. Commence alors la construction de la maison des Baba Yaga.
Les Baba Yaga sont des gentilles grand-mères du folklore russe. Elles habitent des maisons en pain d'épices et racontent des histoires aux enfants.
Mais les enfants qui en profitent pour grignoter leur maison, alors les Baba Yaga les dévorent.
La maison des Baba Yaga qui ouvre enfin ses portes à l'initiative de Thérèse, de Monique Bragard et de Suzanne Gouefic sera une
anti-maison de retraite.
C'est une résidence autogérée pour femmes âgées à faible revenu, où chacune habite chez soi, mais où les murs ne sont pas en pain d'épices.
Pas de personnel soignant ni de chambre médicalisée, mais une vingtaine d'appartements indépendants d'environ 35 mètres carrés, à faible loyer, moins de 400 euros, et des lieux de vie collective.
Chacune doit donner 10 heures de son temps chaque semaine et les dépenses sont mutualisées.
Non, la vieillesse n'est pas un naufrage. Les 6 valeurs des Baba Yaga sont
citoyenneté,
autogestion,
laïcité,
écologie,
solidarité
et féminisme, bien sûr.
Les seules conditions d'admission chez les Baba Yaga, hormis les faibles revenus, sont l'âge, plus de 65 ans, et une expérience de la vie associative ou militante.
Et, bien sûr, l'envie de vieillir autrement et ensemble.
Ensemble, oui. Même si, comme le dit Thérèse,
c'est pas toujours facile de vivre avec des vieilles.
Eh non. En 2003, Thérèse refuse la Légion d'honneur, mais elle finit par accepter qu'on la décore en 2008 en présence de Simone Veil.
Pour que la postérité des femmes ne soit pas que dans les recettes de cuisine.
En 2020, il y aura en France 17 millions de plus de 65 ans. Et les femmes seront toujours, a priori, les plus touchées par la précarité. L'objectif des Baba Yaga est donc d'essaimer.
Je serai vieille, je serai très très belle et j'aurai beaucoup d'amants. Toi, tu m'attendras patiemment. Quand on est vieux, on comprend tout. Quand on est vieux, on a le temps. Toutes mes rides, comme des petites flèches, perceront le cœur, les yeux.
Ce monde, cul par-dessus tête.
Il est décidé que le cerveau des femmes est défectueux, que les fibres de leur cerveau sont faibles et que, à cause de leurs règles, l'apport de sang au cerveau est affaibli. Tout le savoir abstrait, le savoir aride, prévient-on, doit être abandonné à l'esprit solide et industrieux de l'homme. Pour cette raison, ajoute-t-on, les femmes n'apprendront jamais la géométrie. Il existe aussi une controverse pour savoir si, oui ou non, il faut leur apprendre l'arithmétique. À une femme qui possède un télescope, il est suggéré qu'elle s'en débarrasse et qu'elle arrête de chercher à savoir ce qui se passe sur la Lune.
Ces présupposés expliquent aussi pourquoi les femmes continuent de se faire expliquer la vie par des hommes d'une absolue arrogance, pour reprendre le titre d'un célèbre texte de Rebecca Solnit. Cet article est né en 2008, au lendemain d'une soirée mondaine où son interlocuteur l'avait entretenu d'un livre récemment publié sur le sujet dont ils étaient en train de parler et dont il avait lu un résumé dans le New York Times, sans se rendre compte qu'il avait l'autrice en face de lui. Il montrait une assurance telle qu'à un moment, elle avait été prête à croire qu'elle avait pu rater la publication d'un livre important sur le même sujet que le sien.
Ce syndrome, commente-t-elle, est une guerre que presque toutes les femmes affrontent au quotidien. Une guerre qui se joue aussi en elles, à travers la conviction d'être quantité négligeable, l'invitation à se taire, une guerre dont je ne suis moi-même pas tout à fait libérée, malgré une assez belle carrière d'écrivaine, riche en recherches et fait bien employé. Après tout, le temps d'un instant, j'ai été disposée à ce que Monsieur Important et sa confiance démesurée écrasent ma certitude vacillante.
On finit par intégrer ce regard sur soi, cette évidence de sa propre inanité, de sa propre incompétence.
Dans une formule célèbre du discours de la méthode, Descartes rêvait au XVIIe siècle de voir les hommes se rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. Ayant cessé d'être perçu comme un giron nourricier, la nature devient une force désordonnée et sauvage qu'il s'agit de dompter.
et il en va de même des femmes, montre Caroline Merchant. Celles-ci sont dites plus proches de la nature que les hommes et plus passionnées que sexuellement. L'entreprise répressive réussira si bien qu'aujourd'hui, elle passe pour moins sexuelle que les hommes. La sorcière, symbole de la violence de la nature, déchaînait des orages, causait des maladies, détruisait les récoltes, empêchait la génération et tuait les jeunes enfants. La femme qui causait du désordre, comme la nature chaotique, devait être placée sous contrôle. Et une fois jugulées et domestiquées, toutes deux pourraient être réduites à une fonction décorative, devenir des ressources psychologiques et récréatives pour le mari entrepreneur harassé. Ce que Guy Bechtel dit autrement, la machine à fabriquer l'homme nouveau était aussi une machine à tuer les femmes anciennes. Apparaît alors un modèle de connaissance hyper masculinisé, un style cognitif masculin, froid et impersonnel.
La médecine semble bien avoir été la scène centrale sur laquelle s'est jouée la guerre de la science moderne contre les femmes. Elle concentre encore aujourd'hui tous les aspects de la science nés à l'époque des chasses aux sorcières. L'esprit de conquête agressif et la haine des femmes, la croyance dans la toute-puissance de la science et de ceux qui l'exercent, mais aussi dans la séparation du corps et de l'esprit et dans une rationalité froide débarrassée de toute émotion. Cette mainmise est loin de rester abstraite. Le monde médical paraît très soucieux d'exercer un contrôle permanent sur le corps féminin et de s'y assurer un accès illimité. Comme le fait remarquer Florence Moreno,
les organes féminins sont jalonnés de noms masculins.
Tels des drapeaux plantés sur les diverses parties de notre anatomie. Les conduits reliant chacun des deux ovaires à l'utérus se sont appelés jusqu'en 1997 les trompes de Fallope, chirurgien italien du XIVe siècle, avant de devenir les trompes utérines. Les petits sacs, situés dans les ovaires et dans lesquels, de la puberté à la ménopause, mûrit chaque mois un ovule, sont les follicules de Dr. Graaf, médecin hollandais du XVIIe siècle. Les glandes qui sécrètent le liquide humidifiant la vulve et l'entrée du vagin portent le nom de Bartholin, anatomiste danois du XVIIe siècle. En outre, au XXe siècle, une zone de plaisir située dans le vagin a reçu l'appellation de point G, initiale du médecin allemand Ernst Graffenberg. Imaginez l'équivalent chez l'homme. Les corps caverneux d'Emilienne Dupont ou le canal de Catherine de Chaumont.
On commence aussi à mesurer à quel point les préjugés sur les femmes nuisent à leur prise en charge médicale.
À symptômes égaux, une patiente qui se plaint d'oppression dans la poitrine se verra prescrire des anxiolytiques, alors qu'un homme sera orienté vers un cardiologue.
Explique par exemple la neurobiologiste Catherine Vidal. De même, nombreux sont celles qui souffrent le martyre pendant des années quand elles ont leurs règles, avant que l'on détecte une endométriose. Cette maladie touche une femme sur 10 en âge de procréer et commence pourtant tout juste à être mieux connue. De fait, la vision mécaniste du monde témoigne d'une conception de la science désormais caduque. Les découvertes les plus récentes, au lieu de les renvoyer dans le domaine du farfelu ou du charlatanisme, convergent avec les intuitions des sorcières.
La physique moderne, écrit Star Hawk, ne parle plus des atomes séparés et isolés d'une matière morte, mais de vagues de flux d'énergie, de probabilités, de phénomènes qui changent quand on les observe. Elle reconnaît ce que les chamans et les sorcières ont toujours su, que l'énergie et la matière ne sont pas des forces séparées, mais des formes différentes de la même chose.
Il est une vieille femme qui vit dans un endroit caché, connu de tous, mais que bien peu ont vu. Comme dans les contes de fées d'Europe de l'Est, elle semble attendre que les personnes perdues, errantes ou en quête de quelque chose parviennent jusqu'à elle. Elle est circonspecte, souvent velue, toujours grosse, et fuit la compagnie des autres. Elle croit à ses caquettes et s'exprime plus par des cris d'animaux que par des bruits humains. Certains diront qu'elle vit sur les pentes de granit érodées du territoire des Indiens Tarahumara, Elle dit aussi, on dit aussi, qu'elle est enterrée en dehors de Phoenix, près d'un puits. On l'aurait vue descendre vers le sud, vers Monte Alban, dans une voiture complètement délabrée, avec la vitre rabattue. Elle se tiendrait sur la grande route près d'El Paso. Elle accompagnerait les camionneurs qui foncent vers Morelia, au Mexique. On l'aurait aperçue sur la route du marché, au-dessus d'Oaxaca, avec, sur le dos, des fagots aux formes curieuses. Elle se donne différents noms. La huesera, la famoso, la trapera, la ramasseuse, et la loba, la louve. La loba a pour unique tâche de ramasser des os. Elle a la réputation de ramasser et de conserver surtout ce qui risque d'être perdu pour le monde. Sa caverne est pleine d'eau de toutes sortes, appartenant aux créatures du désert. Cerfs, serpents à sonnette, corbeaux. Mais on l'a dit, spécialiste des loups. Elle arpente les montañas, les montagnes, et les arroyos, le lit asséché des rivières, et les passe au crible à la recherche d'eau de loup. Lorsqu'elle est parvenue à reconstituer un squelette dans sa totalité, lorsque le dernier os est en place et que la belle architecture blanche de l'animal est au sol devant elle, elle s'assoit auprès du feu et réfléchit au chant qu'elle va chanter. Quand elle a trouvé, elle se lève et les mains tendues au-dessus de la criatura, elle chante. C'est alors que la cage thoracique et les os des pattes du loup se recouvrent de chair et que sa fourrure pousse. La loba chante encore et la bête s'incarne un peu plus. Sa queue puissante et recourbée se dresse. La loba chante encore et la créature se met à respirer. La loba chante toujours un chant si profond que le sol du désert tremble et pendant qu'elle chante, la bête ouvre les yeux, bondit sur ses pattes et détale dans le canyon. Quelque part, durant sa course, soit du fait de sa vitesse, soit parce qu'elle traverse une rivière à la nage, qu'un rayon de lune ou de soleil vient se poser sur elle, elle se transforme soudain en une femme qui court avec de grands éclats de rire vers l'horizon, libre. C'est pourquoi on raconte que si vous errez dans le désert au coucher du soleil, peut-être un tout petit peu égaré et sans doute fatigué, vous avez de la chance, car la loba peut vous prendre en sympathie et vous montrer quelque chose qui appartient à l'âme.
Vous êtes toujours sur le théâtre de la Gamelle sur Radio Canu le 102.2 et vous venez d'écouter des extraits du livre « Sorcière, la puissance invaincue des femmes » de Mona Chollet, qui vient donc clore le cycle que nous avons consacré à cette autrice. Je remercie les lectrices de ce corpus de textes. Il y avait Charlotte, Anne-Sophie, Manu, Lindsay et Delphine. Merci à vous toutes. Et avant de conclure l'émission, est-ce qu'il y a un point agenda à faire?
Oui. Moi, je voulais annoncer deux petites choses, vite fait.
Oui.
Ce dimanche à 18h au Nidpool, il y a la seconde salve. C'est un cabaret burlesque. Donc à 18h, cabaret qui dure environ 2 heures, avec essentiellement des femmes à l'honneur. Donc ça tombe bien. Voilà, vous pouvez réserver sur le site du Nidpool, c'est 8 euros la soirée. Et la semaine prochaine, au Clochard Céleste, se joue Si tout cela sort de moi. De la compagnie Nager en forêt, qui est aussi un spectacle, on va dire féministe, qui aborde question de l'amour et du mariage vu par une jeune femme et entrecoupé aussi de témoignages d'autres femmes. Donc on est pile dans le thème, j'avais envie d'en parler.
Ah bah oui.
Et c'est un chouette spectacle que j'ai vu dans une autre version d'avant et qui a sûrement évolué depuis.
Donc, je ne sais plus les horaires.
C'est tous les jours à 19h30 et le samedi et dimanche à 18h30. Et en ce moment, au Théâtre de l'Élysée, il y a Yvonne, princesse de Bourgogne, de Witold Gombrowicz, qui est donc portée par la compagnie La Dose. Je ne sais pas exactement les dates, mais allez-y, courez-y, c'est assez jubilatoire.
Donc, tu l'as vu?
Je l'ai vu, tout à fait. Et avant de conclure, je voulais juste rappeler quelque chose. On n'a pas forcément eu le temps de parler autour des extraits, mais on vous invite bien sûr à en parler autour de vous si ça, ça a fait écho avec des bouts de votre vie, avec des choses qui sont dans votre tête. N'hésitez pas. Et pour conclure, je voulais mettre une chanson d'Anne Sylvestre qu'une grande copine m'a fait découvrir qui s'appelle Léa. Pas la chanson, ma copine. Et la chanson s'appelle Frangine. Belle écoute.
Ce fut à l'école déjà qu'on fit de nous des concurrentes. On se regardait chien et chat, on détestait les redoublantes. Souffre-douleur ou bien faillote, on se poussait toujours plus haut. On s'arrachait les bonnes notes, on pleurait devant le tableau. On aurait pu rester frangine, ça nous aurait gagné du temps. Au coude à coude, j'imagine qu'il n'aurait pas fallu longtemps pour qu'on soit toutes aussi bonnes, malgré les pionnes et les parents. Ensuite, en face des garçons, commença la grande offensive. On se fabriquait des façons, des rendez-vous sur l'autre rive. Et grande bringue ou planche neige, c'était à qui amènerait tous les boutonneux du collège à l'accompagner sur le quai. On aurait pu rester frangine, ça nous aurait gagné du temps. Bras dessus, dessous, j'imagine qu'on aurait de ces débutants avant que la vie les assomme, pu faire des hommes, pas des enfants. Un peu plus tard, c'est la beauté qu'on nous érigea en barrière. On se retrouvait insultés si on n'était pas la première. Nos amitiés faisaient sourire, fallait nous crêper le chignon. Et tout ce qu'on pouvait se dire n'était que fadaise ou chiffon. On aurait pu rester frangine, ça nous aurait gagné du temps. Main sur l'épaule, j'imagine qu'on aurait pu, se regardant, voir qu'on était toutes assez belles, et même celles qui ont pas le temps. C'est tout pareil dans nos métiers, on nous oppose et on nous monte en épingle pour mieux montrer qu'on se trouve en dehors du compte. Pour peu qu'on dépasse la tête, on est toujours une exception, chacune sur notre planète, ce qu'on a pu tourner en rond. Si on se retrouvait frangine, on n'aurait pas perdu son temps. Unissant nos voix, j'imagine qu'on en dirait 20 fois autant et qu'on ferait changer les choses. Et je suppose aussi les gens, et qu'on ferait changer les choses. Allez, on ose, il est grand temps.
Il était sur son char. Il n'y a pas d'arme, l'art combat ou sert la cause prolétarienne.
Clandinavère,
journal vivant,
construction, obéir à sa voix.
Oh, c'est un malade, hein, c'est un vrai dingue. Il est capable de tout faire. Oui.
Imiter son silence.